De Radio Capi, bienvenue dans cette deuxième partie de votre magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Quels sont les défis à relever dans les secteurs de l'énergie électrique en RDC? Nous en parlons dans cette deuxième partie du magazine au Capi Service avec l'ingénieur, avec Idriss Koudier, ingénieur en génie électrique, également Emmanuel Moussouyou qui est secrétaire technique de la coalition des organisations de la société civile pour le suivi de réformes et de l'action publique, CORAP en sigle. Si vous êtes intéressé par rapport à ces sujets, vous avez des préoccupations, n'hésitez pas, je vous donne déjà le numéro, les deux numéros d'appel, les 081 890 63 94 ou les 081 09 71 6 63 94. Vous pouvez aussi réagir à l'adresse service@radiocapi.net ou également sur la page Facebook au Capi Service.
Salut, j'ai le plaisir de vous annoncer le retour sur nos antennes de l'émission Roundup. Je suis Nico Kalambay et je vous retrouve désormais chaque samedi de 13h à 15h pour la diffusion et dimanche de 20h à 22h pour la rediffusion. Roundup signe son retour à partir du 24 avril 2021. On se retrouve donc très vite sur les ondes avec vous.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
La RDC dispose d'un énorme potentiel énergétique très varié, de l'hydroélectricité aux réserves prouvées du charbon en passant par le bois énergie, donc du bois pour la cuisson, le réserve de pétrole, le méthane, l'énergie solaire, la biomasse agricole, l'énergie géothermique, ça selon les experts. Cependant, seulement 9% de la population congolaise a accès à l'électricité. La situation est dramatique à l'intérieur du pays. Quels sont les défis à relever dans les secteurs de l'énergie électrique en RDC? Je le disais, nous en parlons avec nos deux invités, Idriss Koudier, qui est ingénieur en génie électrique. Il y a également Emmanuel Moussouyou, secrétaire technique de la coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique. Nous avons déjà en ligne Idriss Koudier. Idriss, vous êtes en ligne? Il me semble que Idriss Koudier n'est pas encore en ligne. On va le retrouver tout à l'heure, mais je rappelle le numéro des contacts si vous êtes intéressé par ce sujet sur le défi à relever dans le secteur de l'énergie électrique en RDC. Vous pouvez composer les 0 81 890 63 94 ou encore les 0 99 706 63 94. Vous pouvez également vous nous écrire à l'adresse service@radiocapi.net ou également sur la page Facebook au Capi Service. Nous avons déjà des réactions sur la page Facebook au Capi Service. On va les découvrir tout à l'heure, toutes ces réactions. Et nous disons d'ailleurs merci à toutes les personnes qui ont pu intervenir sur la page Facebook au Capi Service par rapport à ce sujet sur les défis à relever dans les secteurs de l'énergie électrique en RDC.
Urban Scene, votre magazine de musique urbaine, une vitrine de la scène musicale urbaine sur Radio Okapi. Tous les jeudis et vendredis à 15h30, le samedi à 20h05. Et le dimanche à 12h10, heure de Kinshasa. Avec DJ Daddy.
Voilà, merci de suivre Radio Capi, la fréquence de la pays. Merci de suivre votre magazine de la vie au quotidien Capi Service. Quels sont les défis à relever dans le secteur de l'énergie électrique en RDC? Nous avons déjà notre premier invité en ligne, Idriss Koudié, ingénieur en génie électrique. Idriss Koudié, bonjour.
Bonjour, monsieur les journalistes.
Merci d'avoir répondu à notre invitation pour débattre de ce sujet sur quels sont les défis à relever dans le secteur de l'énergie électrique en RDC. Comme vous le savez, la RDC dispose d'un énorme potentiel énergétique très varié, de l'hydroélectricité aux réserves prouvées du charbon en passant par le bois de l'énergie, c'est-à-dire du bois pour la cuisson, il y a les réserves de pétrole, il y a l'énergie solaire, la biomasse agricole, énergie géothermique, en tout cas c'est ce qu'affirment les experts. Cependant, seulement 9% de la population congolaise a accès à l'électricité. La situation est dramatique à l'intérieur du pays. Alors, quel est le tableau qu'on peut faire à ces jours de l'accès d'abord en énergie électrique en RDC et surtout dans les coins reculés du pays?
Merci beaucoup pour la question. Je pense que le tableau sur la question de l'électricité dans notre pays est très noir. Et c'est une situation qui n'a pas commencé aujourd'hui. Je dirais que depuis l'époque coloniale, jour pour jour, nous sommes en train de régresser sur la question liée à l'accès à l'électricité, ce qui fait que aujourd'hui on ne peut pas parler du développement de la RDC et si cette question n'est pas résolue. Et malgré les différents ministres qui sont passés à la tête du ministère de l'énergie avec les différents gouvernements, mais lorsqu'on regarde les secteurs de l'électricité, on se rend compte que rien ne marche malgré le potentiel énergétique que nous avons, que ce soit en énergie, en hydroélectricité, l'énergie solaire, éolienne, biomasse et toutes ces formes d'énergie. Malgré la présence des cadres institutionnels et légaux, malgré la présence de la nouvelle loi qui régit le secteur de l'électricité, malgré tous les financements que nous avons reçus depuis un certain temps, les tableaux du secteur de l'électricité est resté très noir. Et donc aujourd'hui, les défis sont vraiment énormes. Et par rapport à cette question, si nous voulons vraiment que notre pays puisse prendre son premier vol du développement intégral.
Et pour, ingénieur Idriss Koudié, vous l'avez dit, le potentiel énergétique en RDC est très varié, mais pourquoi on n'arrive pas à exploiter ce potentiel? Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à exploiter ce potentiel? Parce que lorsqu'on parle de l'énergie solaire, on parle de l'énergie géothermique, on parle de réserves prouvées du charbon, pourquoi on n'arrive pas à s'organiser pour exploiter tout ce qu'on a comme potentiel énergétique?
Bon, le vrai problème pour le cadre de la RDC, d'abord, c'est une question de volonté politique. mais également une question de priorités. Et si vous regardez très bien, vous allez voir que la question de l'électricité, elle est restée prioritaire sur le plan théorique avec tous les dirigeants qui prennent le commandement du pays. Mais sur le plan pratique, on se rend compte que rien ne marche. Mais également la vision d'implantation des ouvrages énergétiques. Je le dis toujours que tous les ouvrages énergétiques qui ont été implantés par les Belges, c'était pas pour des raisons de desservir la population congolaise. C'était d'abord pour des fins d'exploitation minière ou forestière. Et les autres ouvrages que nous avons ont été également implantés pour des fins politiques, ainsi de suite. Et donc, si on ne change pas la donne, et les choses ne pourront pas et ne pourront pas marcher. Aujourd'hui, je vous ai dit, nous avons déjà des cadres institutionnels, on a des cadres légaux, mais il manque la volonté politique et une bonne planification sur cette question. Quand vous regardez les cas récents de l'actuel gouvernement, le gouvernement de M. Sama, et la question de l'électricité n'est pas prise en compte comme une priorité. Et ça, ça nous inquiète, nous qui œuvrons dans ces domaines. Et comment on peut parler du numérique comme priorité et dans un pays où la couverture totale de l'électricité n'existait pas, il n'y a que 6% aujourd'hui du taux d'accès à l'électricité sur les 80 millions d'habitants. Et comment on peut faire du numérique une priorité dans un pays où le milieu rural n'a que 1% du taux d'accès à l'électricité? Moi, je crois que ça, c'est une manière de mettre de... C'est comme si on mettait la charrue avant le bœuf. Et c'est pour cette raison que je vous ai dit que nous n'avons jamais considéré la question de l'électricité dans notre pays comme étant une priorité ou encore une urgence. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, rien ne peut marcher. On a des ministres qui sont nommés tout simplement pour des quotas politiques, pour desservir les partis politiques. Et on se pose des questions, mais pourquoi et rien ne marche? Mais le plus grand problème, c'est la volonté politique. Et un autre problème, c'est que le pays n'a pas un plan d'électrification, que ce soit au niveau national ou encore au niveau provincial. Et quand bien même que chaque province a un ministre de l'énergie, et la question qu'il faudrait se poser encore, qu'est-ce que ces ministres font? Vous voyez? Et donc, la situation, elle est tellement très chaotique aujourd'hui par rapport à cette question de l'électricité. Et nous pensons que l'actuel président de la République pourra quand même appuyer sur les leviers pour que ses collaborateurs, que ce soit les premiers ministres, que ce soit les nouveaux ministres, avec tous les organes techniques qui prêtent dans ces domaines, qu'ils arrivent quand même à y travailler. Et sinon, ça sera très compliqué pour voir des investisseurs venir s'installer dans l'arrière du pays. Ça sera très compliqué pour booster les développements du secteur de l'agroalimentaire dans notre pays. Ça sera difficile de parler même de la mise en œuvre effective des objectifs de développement durable, parce que sans énergie, il n'y a rien. Et donc, voilà.
Bon, ingénieur Idrissa Koudi, on revient à vous. Nous avons déjà des réactions, enfin des auditeurs en ligne. Jean Moulimbi qui nous appelle de Kisangani et Gilbert Lokwakia Mbandaka. On va leur accorder tout à l'heure la parole. Mais avant d'y arriver, je m'en vais lire cette réaction d'Héritier Wamenga qui nous écrit sur la page Facebook Okapi Service. Les défis sont énormes en tout cas. Kisangani par exemple est quasiment dans le noir vu l'absence prolongée de l'énergie. Aucune commune n'est épargnée de la situation. Un projet de l'énergie solaire était amorcé avec le gouvernement provincial sortant. Dommage car l'actuel ne fait jamais allusion à cela. Dans les pays qui utilisent le courant d'Inga, il n'y a jamais de coupure d'électricité, mais chez nous, elles sont devenues monnaie courante. Le gouvernement prend le développement. L'un des indicateurs de celui-ci est l'accès en électricité. Juste un rappel, voilà, c'est ce que nous écrit depuis Kisangani, héritier Wamenga, sur la page Facebook Okapi Service. Le standard est ouvert. On va prendre le premier auditeur qui est en ligne. C'est Jean Moulimbi qui nous appelle de Kisangani. Jean Moulimbi, bonjour.
Bonjour Marcel et bonjour à notre invité.
On vous écoute.
Monsieur Marcel, vraiment c'est grave. Moi je ne fais pas confiance à tous ceux-là qui disent que non, la RDC est une scandale géologique. Vu tout ce que nous vivons, je ne fais pas confiance. C'est comme si nous n'en avons pas. Sauf que si on avait, on allait contempler, on allait peut-être utiliser. Et comme on n'en a pas, est-ce qu'on peut encore faire recours à d'autres ressources? Parce que là, géographiquement, tout ce qu'on nous dit qu'il y en a, il y en a, nous ne contemplons pas. Ou c'est la marque d'une politique nationale, ou bien on est tenté de tâtonner comme on est tenté de tâtonner à la politique congolaise. Je vous dis et je vous remercie.
Merci, excusez-moi, merci Jean Moulimbi depuis Kisangani. Gilbert Lokwa, vous êtes en Bandaka. Bonjour Gilbert.
Oui, bonjour à Radio Kati et bonjour aussi à notre invité. Et je vous remercie pour m'avoir accordé la parole. Je voulais dire placement par rapport au sujet du jour. Ça fait aujourd'hui au moins la semaine passée, nous, dans le cadre de notre structure qui est les jeunes leaders du Congo, nous avons organisé une conférence de base à la Mbandaka pour faire montrer aux jeunes que nous sommes aussi notre pays aujourd'hui, la République démocratique du Congo, est développée, y compris notre province de l'Équateur, si aujourd'hui elle est sous-développée, cela est dit par manque de courant. Donc les problèmes l'électricité pose un sérieux problème pour faire développer notre pays. Parce que si vous avez fait des recherches comme nous tous, vous allez comprendre vite que non, si aujourd'hui notre pays est si développé, parce qu'il n'y a pas de courant. Et nous nous posons la question, pourquoi nous avons notre source d'énergie, d'électricité comme barrage Dinga et...
Gilbert Lokwa n'est plus en ligne. Désolé pour Gilbert. On revient à notre invité Idriss Koudié. Idriss, vous avez suivi Jean Moulimbi qui a appelé de Kisangani. Vous avez également suivi cette réaction d'héritier à Wamenga sur notre page Facebook. Et puis le premier propos de Gilbert Lokwa depuis Mandaka avant que la ligne soit coupée. Donc l'électricité, c'est un indicateur important de développement et c'est vrai, la réalité c'est là. L'accès à au courant électrique, tout ce qui est électricité pose énormément de problèmes à la majeure partie de la population. Mais quelles sont les différentes solutions qui peuvent apporter résoudre plutôt, j'allais dire, ces problèmes d'accès à l'électricité et avec tout ce qu'on a comme potentiel énergétique?
Oui, merci beaucoup. Je crois que les Congolais qui viennent d'intervenir, ils ont complètement raison. Il faut dire que et s'il faut parler en termes de suggestions, des propositions,
oui.
Il faut des réformes au sein du secteur de l'électricité. Et d'abord, le choix de ministres et de tutelles du secteur de l'électricité. Il ne faut pas que ce soit seulement un poste qui est octroyé pour des raisons politiques. Moi, je crois que il faut penser à quelqu'un qui soit du domaine, ou encore, vous mettez quelqu'un qui n'est pas du domaine, mais le faire entourer par des experts du secteur. Et quand je parle de l'expertise, c'est pas par rapport au diplôme, parce qu'aujourd'hui, on est tombé dans une certaine confusion où on pense que le fait d'avoir le diplôme de l'ingénieur, on est expert sur la question de l'électricité. Donc aussi, les ministres n'est pas du domaine, il doit se faire entourer par des experts. Et ça, c'est vraiment un conseil que je donne pour l'actuel ministre, parce que bientôt, il va constituer son cabinet. Il doit vraiment se rassurer qu'il a des experts dans toutes ces formes d'énergie renouvelable, disons. Et la deuxième question... ça nécessite l'implication du président de la République. Je sais pourquoi je suis en train d'insister, parce qu'il est le garant de la nation. Et je crois qu'il doit, son implication personnelle pour les changements dans ce secteur est indispensable. Et une autre suggestion, c'est la mise en place d'un système de travail en synergie de tous les prestataires du secteur de l'électricité. Aujourd'hui, par exemple, vous avez l'ANSER et vous avez l'autorité de régulation du secteur de l'électricité. Et il faut se poser la question, la dernière fois que ces deux établissements nouvellement installés et ont travaillé ensemble, c'était quand? Vous voyez? Donc, il faut un système de travail en synergie de tous les prestataires. Donc, il y a l'ANSER, il y a l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, il y a l'UICEM, il y a tous les organes techniques du ministère de l'Énergie, y compris les secrétariats, mais aussi le ministre, le ministère de l'aménagement du territoire, le ministère du plan, le ministère de l'environnement, c'est-à-dire tous les ministères qui ont une mainmise sur la question de l'électricité. Alors, une autre suggestion, le gouvernement congolais doit disponibiliser une bonne enveloppe sur la question de l'électricité dans les budgets. C'est ça ma suggestion. Donc, on doit vraiment penser à un fonds, à un budget consistant pour les secteurs de l'électricité. Il faut également mettre en place ce qu'on appelle ce qu'on va appeler les fonds de maintenance et de suivi technique des ouvrages énergétiques de la République. Monsieur les journalistes devaient savoir que les dernières analyses ont démontré que la RDC, aujourd'hui nous avons plus de 50 centrales qui sont en panne, plus de 50 centrales électriques qui sont en panne. Et pourquoi ces centrales sont restées à cet état? Parce que le pays n'a jamais disponibilisé un fonds pour la maintenance et le suivi de tous ces ouvrages. Et donc, il revient à l'actuel gouvernement, bien sûr, avec l'accord du Parlement, de mettre en place un fonds pour la maintenance de tous ces ouvrages. Donc, il faut toujours partir sur l'existant. Ce n'est pas mauvais de construire des nouveaux ouvrages, mais il faut mettre en marche également et les anciens ouvrages qui existent. Mais autre chose, c'est que c'est le patriotisme qui doit primer dans les chefs de tous les responsables qui travaillent dans les différents services sur la question de l'électricité. Je venais de vous dire tout à l'heure qu'il n'y a pas de raison aujourd'hui que le Premier ministre Sama ne puisse pas prendre la question de l'électricité comme l'une des priorités dans son gouvernement. Et ça, c'est déjà un problème. Et comment on peut considérer les processus électoraux comme priorité? Comment on peut considérer la santé comme priorité? Certes, c'est une bonne chose, mais je pense que le secteur de l'électricité, c'est un secteur transversal. C'est un secteur qui affecte les restes des secteurs à travers la RDC. Et donc, voilà un peu un petit lot des propositions que nous avons à faire, mais il revient également au gouvernement, aux différents gouvernements provinciaux, de travailler dans l'élaboration du plan d'électrification provincial. On se pose toujours des questions, qu'est-ce que le ministre provincial, oui, de l'énergie dans toutes ces provinces font. Alors si aujourd'hui les provinces en tant que cadre institutionnel du secteur de l'électricité arrivent à travailler sur le plan sectoriel pour dégager les plans d'électrification, et je pense que ça pourra aider les pays à aller de l'avant, voilà, au lieu de compter qu'au niveau du ministère national,
voilà,
des ressources hydrauliques.
Voilà, en tout cas, j'espère que toutes ces suggestions vont tomber dans la bonne oreille, hein, donc pour essayer de voir comment essayer de trouver des solutions aux problèmes d'accès à en électricité en RDC. Vous avez évoqué également le au niveau des gouvernements provinciaux, nous avons suivi, vous allez peut-être réagir par rapport à Seriti Wamenga qui nous a parlé d'un projet du gouvernement provincial sortant qui avait mis en place un projet d'énergie solaire du côté de Kisangani. Mais on va prendre d'abord des auditeurs qui sont en ligne. Jean-Gilbert qui est en Bandaka et Jonas Kabinda qui est à Kananga. Jean-Gilbert, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Jean-Gilbert. Jean-Gilbert, bonjour. Vous avez la parole, vous êtes en ligne, allez-y. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ces sujets sur les défis à relever dans les secteurs de l'énergie électrique en RDC?
Merci beaucoup pour la parole accordée. Je voudrais d'abord remercier notre invité qui est vraiment à la hauteur de ce qu'il est en train de dire. Parce que quand on voit même la constitution de la République démocratique du Congo, en son article 203, quand on prend le point 20, nous dit que la production, le transport et l'utilisation de l'énergie électrique, c'est toujours c'est une compétence concurrente, c'est-à-dire d'un côté, qui est provincial. Mais la politique énergétique du pays revient maintenant au pouvoir central. Mais ce que nous regrettons, c'est quoi? L'électrification d'une contrée est devenue un problème purement politique. C'est comme ça que je rejoins l'invité quand il parlait de la volonté politique. Nous prenons par exemple chez nous, dans la province de l'Équateur, il y a des projets qui sont là, piquer l'énergie à partir du Bandundu jusqu'à Mbandaka, ou encore piquer l'énergie à partir de Mobayimbongo jusqu'à Mbandaka. Les coûts sont connus. Différents gouvernements qui passent, il n'y a que des promesses, et jusqu'à ce jour, il n'y a rien qui est en vue. Et heureusement qu'au niveau provincial, nous sommes en train de se battre pour avoir notre plan provincial, comme l'a dit notre invité. Et nous avons pour le modèle hybride, c'est-à-dire qu'on a l'eau à gogo, on a le soleil à gogo, parce qu'on est traversé par la ligne de l'Équateur. Donc, quand on aura ce modèle hybride, peut-être on va soulager tant soit fait les centres urbains. Mais dans l'éducation rurale, notamment, où les villages sont éclairés par des lucioles, ça pose problème. Moi, je crois que on donne priorité à la santé, c'est bon, on donne priorité à ce. Mais l'énergie électrique reste le socle du développement d'un pays. Hein? Pour aller numérique, mais on charge les téléphones de commun. On n'a même pas des endroits pour charger les téléphones. On n'a jamais vu même des ordinateurs. Hein? C'est comme ça que pendant les pillages, les gens ont volé des écrans, des ordinateurs géants, croyaient que c'était des téléviseurs à cause de ça. Donc moi, je crois que le gouvernement central doit se ressaisir. Et comme bientôt ils seront devant l'Assemblée nationale, que l'Assemblée nationale fasse quelque chose. Nous avons quand même des élus qu'on a envoyés là-bas. Hein? Même si aujourd'hui on peut être mécontent, mais pour l'intérêt de la province, on peut quand même faire quelque chose. Voilà au moins ce que je voulais apporter comme ma petite contribution. Je voulais revenir aussi par rapport à l'existant. Chez nous, par exemple, la province est faite éclairée par des centrales thermiques. Or, aujourd'hui, ces centrales coûtent extrêmement cher avec les carburants. Imaginez, à Mbandaka, ici, quand vous êtes abonné à la SNEL, vous devez débourser au moins $100 par mois pour 3 jours de service. Là, notre bourse est de combien? C'est comme ça que au lieu de place de la lumière, c'est l'obscurité qui gagne du terrain, avec toutes ses conséquences, le clonage et ainsi de suite.
Merci Jean-Gilbert Molanda d'avoir appelé de Mbandaka à Kananga. Jonas Kabinda est en ligne. Bonjour Jonas.
Oui, bonjour, bonjour Monsieur Marcel.
On vous écoute Jonas.
Oui, permettez que je vous pose à chaud la question de savoir si les différentes interventions des Congolais dans les missions au Capitole Service ou par aux auditeurs arrivent au président de la République et à nos députés nationaux.
Et vous avez comme l'impression que ça n'arrive jamais, c'est ça?
J'ai l'impression que ça n'arrive pas, monsieur Jody. Eh, monsieur Marcel.
Bon, ça, c'est des ce n'est qu'une impression que vous avez, hein, mais je vous dis que ça arrive quand même, hein, parce que des fois, nous avons aussi de feedback, hein, par rapport à certaines interventions, hein, voilà. Donc, il y a des services de communication qui s'occupent de ça, et je suis sûr que ça arrive. Voilà. On vous écoute,
oui,
Jonas.
Oui. Oui. Lorsque ça arrive, je rappelle au président de la République et aux députés, tant nationaux que provinciaux de la République, cet adage de, je pense, de le feu cardinal Aloula disait, si vous vous servez d'un peuple,
oui,
comme d'un tremplin pour arriver, le peuple vous haïra au lieu de vous aimer. J'arrête par là et je continue pour dire que, je rappelle, le problème d'énergie se pose avec beaucoup d'acuité sur toute l'étendue de la République, mais aussi et surtout au Kasaï central où je me trouve. Monsieur Marcel, si vous n'avez jamais été à Kananga, vous aurez peur d'y habiter et surtout de vous y promener la nuit. Et Kananga, la nuit, c'est comme vraiment dans un enfer où il n'y a même pas l'étincelle de la lumière. La nuit, on va me dire qu'il y a la SNEL. La SNEL est là pour les directeurs de la SNEL, pour les quelques députés, pour les autorités, mais pas pour le bas peuple. Alors, pour ne pas aller très loin, j'ai dit que j'ai rappelé au président quelque chose. Il y a la chute 4-1-2 qui a existé avant le président Tshisekedi, avant son accession au pouvoir. Et il en sait quelque chose. Alors, si le président Tshisekedi peut penser au peuple kassaïen, il a aidé à accéder au pouvoir. Ce n'est pas le seul peuple qui a voté le président, mais le peuple kassaïen a voté le président Tshisekedi, je pense, à 99%. Il en a les résultats. S'il peut aider ce peuple à avoir du courant et la chute 4-1-2 pendant son mandat, parce que je ne vois pas ce qu'il y a de meilleur qu'il offrira au peuple kassaïen, ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas l'argent qu'il va donner maison par maison. Mais parce qu'il y a du courant, les investisseurs peuvent venir habiter à Kananga et recruter la jeunesse kanangaise qui est en train de sombrer dans un chômage indescriptible. S'il peut poursuivre les travaux ont déjà avancé jusqu'à un certain pourcentage. S'il peut vraiment s'investir et achever les travaux de chute 4-1-2, la province aura le courant et les autres, et les provinces, d'ailleurs, les autres provinces voisines seront dans l'électricité.
Voilà, merci.
Alors, il y a aussi,
les
quelques petites chutes. Mbombo, Lobby, tout ça. À travers le ministère de l'énergie, il peut s'investir. Quand même, la province peut sentir dans un pays où il y a un président qui aime sa population, comme il dit, le peuple d'abord. Nous sentirons que le peuple d'abord, si l'énergie, si les villes seront éclairées. Je ne veux pas aller très loin.
Merci.
C'est un message à le président.
Merci Jonas d'avoir appelé de Kananga. On revient à notre invité, Idriss Koudié. Vous avez la parole, Idriss. Vous avez suivi les tableaux, hein, brossés par Jean Gilbert du côté des Mandaka, également Jonas du côté des Kananga, où on se rend compte que le problème d'accès à l'électricité est vraiment sérieux. Et qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à leurs propos? Et puis, ça sera votre conclusion.
Oui, je pense que Monsieur Gilbert et Monsieur Jonas ont complètement raison. Je vais commencer par ce que Monsieur Gilbert a dit. Effectivement, pour les cas de la province du Grand Équateur, donc il n'y a pas de raison que cette province soit en noir. Il a parlé de quelques projets qui étaient
Il semble qu'il a. Et, apparemment, il y a un petit problème avec votre ligne.
Your call cannot be completed as dialed. Please consult your directory and call again. Or ask your operator for assistance.
Désolé, apparemment, il y a un problème avec
This
la ligne.
This is a recording.
Apparemment, il y a un problème avec la ligne de notre invité, Idriss.
Vous entendez bien?
Idriss,
je vous entends très bien maintenant.
Bah, il me semble savoir maintenant. Allez-y rapidement pour votre conclusion. Allez-y.
Oui, donc, je disais que ce soit M. Gilbert ou encore un frère de Kisangani qui a dit qu'il y avait des projets qui étaient en cours avec les anciens gouvernements. L'un des problèmes que nous avons dans notre pays, on fait ce qu'on appelle la politique de la table rase. Donc il n'y a pas de continuité sur le plan administratif. On pense que si les projets avaient commencé avec X et que moi je prends les pouvoirs aujourd'hui, et si j'ai continué avec les projets, les gens vont dire que voilà, c'est pas mon projet. Et ce qui fait que on est en train de travailler avec des fluctuations, qu'il n'y a pas de continuité. Je prends les cas de, nous avons par exemple la centrale des Katende à Kananga et puis Kakobola dans les Kulu. Ce sont des projets hydroélectriques qui ont commencé avec l'ancien régime. Et aujourd'hui, il n'y a pas de raison pour que ces projets ne puissent pas être mis en œuvre. On a vu le programme de 100 jours du chef de l'État ici. En principe, ça devrait faire l'objet des priorités des priorités. Mais les problèmes, les gens qui sont autour du chef, ils jouent pas un bon rôle. Voilà. Il y a encore à Kananga, la centrale solaire de Kananga qui était également implantée par l'ancien régime et qui ne fonctionne pas aujourd'hui. C'était l'argent de l'État congolais. Et moi qui vous parle avec mon bureau d'études, j'ai fait un projet de remise en marche de cette centrale solaire de Kananga et même son extension jusqu'à 5 mégawatts. Mais jusqu'à aujourd'hui, personne n'est réagi. Donc le problème, on travaille avec des ruptures. Donc il revient... Ça, c'est vraiment une...
Il faut chuter, Idriss, on va conclure avec vous. Allez-y, il faut absolument...
Donc, pour conclure, il revient au président de la République, il revient au premier ministre comme chef du gouvernement d'être trop regardant sur cette question de l'électricité. Et moi, je vais demander au premier ministre, à part la sécurité à l'Est, c'est de considérer la question de l'électricité comme une urgence.
Voilà.
Le Parlement doit et également y travailler. Lorsque le gouvernement sera investi, il faudrait que le Parlement aide ce gouvernement à travailler sur la question de l'électricité. Sinon, il n'y a rien qui va marcher. Et à la fin des comptes, c'est le président de la République qui sera pas très bien coté.
Merci.
Et donc, je souhaite bonne chance au nouveau ministre de l'énergie. Et nous sommes là. S'ils ont besoin de nos conseils, de nos suggestions, et nous sommes là. C'est la République qui nous intéresse. Nous devons faire quelque chose parce que c'est notre pays. Merci beaucoup.
Ouais, merci Idriss Koudié. Nous rappelons que vous êtes ingénieur en génie électrique. Merci d'avoir été de notre pour ces sujets sur les défis à relever dans les secteurs de l'énergie électrique en RDC. Nous espérons vous retrouver prochainement.
Merci beaucoup.
Allô?
C'est parce que Radio Capi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
à ça. Je suis vraiment ravi par la pertinence de votre émission.
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
Il n'a pas de travail.
Les intouchables, dans ces pays, n'existaient pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Merci de suivre Radio Capi, la fréquence de la paix. Bienvenue si vous nous rejoignez. C'est votre magazine de la vie au quotidien Capi Service. Nous parlons de quels sont les défis à relever dans les secteurs de l'énergie électrique en RDC. On va retrouver notre deuxième invité pour ce sujet, Emmanuel Moussouyou. Vous êtes secrétaire technique de la coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique Cora Pensigle. Bonjour.
Bonjour.
Voilà.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre dans ce numéro du magazine Okapi Service pour parler justement du problème de l'accès en électricité ici en RDC. Vous êtes de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique. Dites-nous à votre niveau par rapport à tout ce qu'il y a comme défi à relever dans ces secteurs, puisque d'après certains chiffres, 9% seulement de la population congolaise a accès à l'électricité, alors que la RDC dispose d'un énorme potentiel énergétique. Monsieur Manuel, oui.
Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, moi je représente au fait une plateforme d'ONG qu'on appelle CORAP. CORAP, oui. C'est au fait une coalition d'ONG pour le suivi des réformes de l'action publique. Et nous sommes depuis plusieurs années maintenant engagés à suivre les réformes dans le secteur de l'énergie. Nous avons vu beaucoup de choses évoluer. Nous avons eu par exemple à travailler en termes de commentaires à apporter dans la loi, l'actuelle loi portant secteur de l'électricité. Nous avons travaillé pour la mise en place des mesures d'application que nous avons aujourd'hui autour du secteur, entre autres l'ANSER et l'ARRE qui font partie au fait des mesures qui devaient faire avancer l'applicabilité de la loi. Nous sommes actuellement en train de travailler sur la politique nationale énergétique. On est invité par le gouvernement justement pour apporter notre pierre à la construction justement de cette politique nationale énergétique, comme aussi nous préparons la société civile à contribuer efficacement à ce processus-là. Et tout ça dans le but justement d'apporter notre contribution dans l'amélioration de l'accès, hein, de la problématique d'accès pour tous à l'énergie. On est d'accord avec vous que la RDC actuellement est comptée parmi les derniers pays en termes d'accès à l'énergie, alors qu'elle est justement placée parmi les premiers pays qui ont plus de potentiel en termes justement de production d'électricité. Vous l'avez cité, s'il faut parler de l'hydroélectricité, plus de 100 000 mégawatts avec plus de 800 sites à développer à travers le pays pour produire des micros, en fait, des micros et barrages à taille moyenne. Ça, c'est une ressource assez importante, mais dans l'entretemps, il y a beaucoup de défis qu'il faut relever. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. L'autre fois, on pensait que la loi allait venir résoudre le problème, mais aujourd'hui, plusieurs années, la loi c'est depuis 2014, aujourd'hui plus de 7 ans, on sent que les choses ne bougent pas encore. On a parlé des mesures d'application, il y a des mesures d'application.
Et d'après vous, Emmanuel, pourquoi ça ne bouge pas alors qu'on a libéralisé les secteurs? D'après vous, pourquoi ça ne bouge pas? Pourquoi il n'y a pas, beaucoup d'autres opérateurs dans le secteur énergétique?
On peut dire que le plus grand problème, c'est au fait la finalisation même de la réforme.
Oui.
La loi a été promulguée depuis 2014, mais pour voir les mesures d'application, c'est à peine en 2010, entre 2019 et 2020, qu'on a vu que les différentes mesures d'application ont été prises. Ça, c'est déjà un sérieux blocage. Mais aujourd'hui, on est en 2021, où on voit qu'il y a l'ARRE qui a été installé, l'ANSER qui a été aussi mise en place. Mais ces deux structures, je vous assure qu'aujourd'hui, elles peinent à fonctionner. C'est-à-dire, même leur fonctionnement de base actuellement est pris en charge par la Banque mondiale. C'est-à-dire, du côté du gouvernement, il n'y a pas de moyens. Ils n'arrivent pas à assurer le fonctionnement de ces deux structures. Donc, le plus grand problème pour nous, estimons à ce stade, c'est au fait la finalisation ou l'applicabilité même de la loi. Parce que, rassurez-vous, les investisseurs privés devaient venir depuis pour, n'est-ce pas, mettre de moyens pour finaliser le secteur, pour investir dans le secteur. Mais depuis, ils n'ont pas de facilité pour le faire. Je ne sais pas, c'est à peine août 2019 que le gouvernement avait publié une ordonnance, l'arrêté du ministre de l'Énergie qui, n'est-ce pas, mettait des bases sur ce qui concerne la fiscalité dans le secteur, alors que c'est un document qui était très attendu. Oui. Aucun investisseur ne peut venir dans un secteur alors que des questions liées à la fiscalité, certaines autres facilités, l'autorité des régulations, etc. n'est pas mise en place. Et tout le temps que la mise en place de ces structures, de ces mesures a pris, a aussi retardé l'arrivée de plusieurs investisseurs. Mais aujourd'hui, le problème persiste parce que les privés ne peuvent pas non plus venir où les choses ne sont pas claires. Vous vous rendrez compte que la loi qui est venue libéraliser les secteurs. est venu appliquer ou mettre en avant le principe de la décentralisation dans le secteur énergétique. Mais la loi n'est pas vulgarisée. Je suis désolé de dire que certaines autorités au niveau de province ne s'y prennent pas aussi pour, n'est-ce pas, booster.
Tout à fait. Cette décentralisation, essayer de vulgariser cette loi et puis clarifier certaines choses. On vous garde en ligne, Emmanuel Moussou.
Justement, oui. Un de blocage qui ne permettra pas à ce que les choses avancent vite.
Alors, restez toujours en ligne parce qu'il y a un auditeur qui est en ligne, Alphonse Boudrilé, qui nous appelle de Ingbokolo. Alphonse, bonjour.
Bonjour Marcel, bonjour aussi à notre invité, bonjour à tous les autres auditeurs de Radio Capi. Marcel, vraiment la situation de l'électricité, comme vous l'avez dit au départ, là, est dramatique dans le territoire d'Arou. Chez nous, il n'y a que, vraiment, s'il faut dire la vérité, il n'y a que les étoiles, la lune et le soleil qui sont là, que nous sommes en train de constater tous les jours, quand même, là, c'est gratuit. Et par rapport à ce que le gouvernement a toujours dit dans la Constitution que le courant est gratuit. Malheureusement, chez nous, à Arou, c'est tout à fait le contraire. Depuis l'indépendance, même avant l'indépendance de notre pays, on n'a aucune idée sur ce qu'on appelle l'électricité, Monsieur Marcel. Alors, par exemple, vous aviez dit au départ que la RDC a beaucoup de potentiel en termes d'énergie. Et il est vrai, chez nous même, à Ingbokolo, à une dizaine de kilomètres d'Ingbokolo, avec presque la frontière avec le Soudan du Sud et l'Ouganda, nous avons une site qui a vraiment toutes les potentialités. Cette site-là s'appelle Buranga Kibi. C'est une site sur laquelle si on installait par exemple une centrale, ça peut même servir une bonne partie du Soudan du Sud, une partie même de l'Ouganda, et même une bonne partie du territoire d'Arou. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, comme un auditeur l'avait dit précédemment, ce ne sont que des promesses et des promesses, mais rien ne se réalise. Quand vous allez, par exemple, nous qui sommes à quelques vingtaines de frontières avec l'Ouganda, vous allez là, les petits villages, donc des petites villes comme ça, tout est électrisé. Et quand vous y allez, vraiment, ça fait vraiment la beauté. Je voudrais maintenant poser la question à notre invité, oui, comme il est de la société civile. Est-ce que, selon notre invité, est-ce qu'on ne peut pas libéraliser ce secteur? Parce qu'il y a des individus qui sont capables de produire le courant en grande quantité par rapport au gouvernement passé qui faisait un des chantiers qui était l'électricité. Est-ce qu'on ne peut pas libéraliser ce secteur? Est-ce que c'est possible? C'est ça la question.
Merci Alphonse d'avoir appelé Ingbokolo, d'avoir déjà l'invité parler justement de cette loi qu'il faut vulgariser parce que le secteur est déjà libéralisé. En tout cas, il va réagir tout à l'heure. Merci d'avoir appelé de Ingbokolo. Nous revenons ici à Kinshasa. Benoît est en ligne. Bonjour Benoît. Rapidement, Benoît, votre question.
Oui, bonjour Marcel, bonjour l'invité. La question d'abord à notre invité. Quelle est la politique qui doit mettre face à ces défis? Puisqu'il fait partie de la société civile et à leur tour, ils ont aussi des mécanismes par lesquels ils doivent relever ces défis. Quelles sont les propositions qu'ils ont faites à ces gouvernements passés ou les nouveaux gouvernements face à ces défis de l'électricité qui bat les corps dans tous les territoires? Et j'ai répondu d'ailleurs au gouvernement de M. Jean-Michel Samalukonde, donc il n'est pas encore investi. J'aimerais que ce gouvernement parvienne quand même à effacer nos armes, puisque nous, à Kinshasa, c'est comme si on était loin de la capitale congolaise, quoi. Puisque si vous passez par la rivière fleuve Congo, vous verrez qu'à Brazzaville, l'électricité s'ouvre, hein, même de loin. Mais lorsque vous contournez la République du Congo, et que vous revenez chez nous, vous verrez que nous sommes dans des ténèbres. Et par là, je me pose aussi souvent la question, quelle est la politique que nos présidents de ces pays nous mettent en exercice? Puisque ce problème, on nous parle si souvent des investisseurs, ils doivent venir. Et lorsqu'ils viendront, avec quelle électricité que nous disposons dans ces pays, et enfin que ces derniers exercent dans leur société. Donc, ce n'est que quelques préoccupations qui nous tourmentent, nous les Congolais, et que tous les gouvernements qui passent dans notre pays et qui manquent une politique à mettre en œuvre pour ce secteur d'électricité.
Merci.
Aille de l'avant.
Merci Benoît Guélord Ntumba d'avoir appelé des Kinshasa. Emmanuel Moussou, vous avez la parole.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je dis merci beaucoup aux intervenants de tout à l'heure. Je les salue aussi. Et j'ai noté quelques questions, notamment la première, dans le commentaire de monsieur Alphonse, où il disait que la Constitution ou la loi dit que le courant doit être gratuit. Moi, je pense que la première des choses à noter, c'est que la loi dit que l'électricité doit être payée sur base de la vraie consommation. Donc, il n'y a pas d'électricité gratuite, mais la gratuité ou des mesures sociales que doit prendre le gouvernement, c'est ce qui peut améliorer les choses dans le sens que on peut subventionner de l'électricité pour que le coût soit minime pour la population qui doit consommer cette énergie-là. Parce qu'en réalité, s'il faut payer sur base de la vraie consommation, il faut tenir compte de tous les investissements qui doivent venir, surtout que le secteur est libéralisé, les privés, ils cherchent plutôt leurs gains. Et donc, il faut qu'il y ait une politique de subvention de l'autorité ou du gouvernement congolais pour justement arriver à résoudre ce problème-là du prix de l'électricité. Mais je suis vraiment désolé, comme tout le monde, de constater que, voire à Aourou et un peu partout dans le pays, nous avons un sérieux problème d'électricité. Celui de Kinshasa qui venait de prendre parole tout à l'heure l'a mentionné. Même à Kinshasa, c'est maintenant assez compliqué. Mais s'il faut répondre à la question de savoir c'est quoi la politique du gouvernement, aujourd'hui, il faut noter que ça fait beaucoup d'années. La dernière fois que le gouvernement congolais cherchait à développer une politique nationale énergétique, la tentative était en 2009. Et aujourd'hui, nous sommes en 2020, plus de 10 ans passés, le pays n'a pas eu de politique nationale énergétique. Et c'est le travail ou c'est des travaux qui sont en cours d'élaboration. Mais de quelle politique il s'agira pour nous, société civile? Parce qu'il veut chercher à savoir...
Oui, le rôle, lui, de la société civile, oui.
Qu'est-ce que nous contribuons? Nous nous disons que la première des choses, cette politique doit venir, encore une fois de plus, établir cette façon de faire qui privilégie un secteur décentralisé. C'est-à-dire quoi? La loi sur le secteur de l'électricité a été promulguée depuis 2014, et parmi les choses qu'il faut retenir de cette loi, c'est que elle a appuyé la libéralisation du secteur, c'est-à-dire le secteur est ouvert à tous les partenaires qui peuvent venir investir dedans. Même un individu qui veut produire pour lui-même son électricité, à travers la loi actuelle, est autorisé à le faire. Ça, c'est la libéralisation. La deuxième des choses, c'est la décentralisation. C'est-à-dire, dans le passé, pour faire un projet, pour développer un projet d'électrification, il fallait avoir des autorisations au niveau national, voire au niveau du ministère de l'Énergie. Mais actuellement, la loi permet à ce que même des gouverneurs au niveau de province, même au niveau des localités, qu'il y ait des autorisations qui viennent de ces niveaux-là, suivant les quantités ou les puissances que l'on est capable à produire. Et même cette loi-là dit que pour un projet qui ne dépasse pas les limites d'une province, c'est l'autorité au niveau de la province qui est capable de donner cette autorisation-là. Et donc, nous disons que c'est un principe que la loi a édicté, mais la politique énergétique qui doit venir doit davantage venir mettre un focus sur ce type de système, parce que l'avantage avec un tel système, c'est que on va produire de l'électricité suivant la capacité de nos différentes provinces. Je disais au départ que
La RDC a une possibilité de développer plus de 860 sites à travers le pays. Ça va nécessiter moins de coûts, ça va nécessiter moins d'engagement politique au niveau national, mais ça va favoriser l'accès pour tous à l'énergie, ça va favoriser le développement de l'économie au niveau local. Et donc,
voilà,
raison pour laquelle nous disons que la politique permettait que
rapidement, allez-y rapidement, on n'a plus assez de temps pour cette partie.
Et pour ça, c'est pour dire que cette politique nationale énergétique ne doit pas mettre l'accent sur de grands projets d'investissement.
Oui.
Parce que le grand projet d'investissement prenne beaucoup de temps et beaucoup de ressources, alors que des petits projets qui puissent booster le développement du secteur énergétique en RDC ne demandent pas beaucoup de temps, mais
merci.
Avec très peu de moyens, on peut avancer.
Merci Emmanuel Moussouyou. Nous rappelons que vous êtes secrétaire technique de la coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et l'action publique à Cora Pensigle. Merci d'avoir été de notre. Au revoir et bonne journée à vous.
Merci et au revoir.
Voilà, fin de ce numéro du magazine Okapi Service de ce jour. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à Dieudonné Nyangasa qui est à la mise en onde, à Tati Mapoku qui l'a réalisé aux coordonnées au micro. C'était Marcel Ngomombala sous la supervision de Jean-Marc Matwaki. Nous nous au plaisir de vous retrouver demain à 10h03, heure de Kinshasa, pour un nouveau numéro de votre magazine de la vie au quotidien. D'ici là, bonne suite de programme sur la fréquence de la paix. Au revoir à tous.